Bonjour et bienvenue dans Venu d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale. Je suis Nawel Alamouchi et cette semaine, mon invité est Rahim Rezigat, né près de Sétif en Algérie et arrivé très jeune en France. Il a traversé l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne en s'engageant au sein du Front de Libération Nationale, le FLN. Rahim a été interné dans plusieurs camps pendant la guerre. Il a été aussi témoin des événements meurtriers du 17 octobre 1961 à Paris. Il est devenu au fil des années un véritable passeur de mémoire. Militant associatif, il œuvre depuis 70 ans au dialogue entre les cultures et à la transmission de l'histoire entre les générations. Entretien avec Rahim Rezigat. Bonjour Rahim Rezigat.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour Venu d'Orient.
Avec plaisir.
Je vous laisse dans un premier temps vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas.
Je suis originaire de Msila, dans la région de Sétif, et j'ai 86 ans.
Et donc vous êtes engagé associativement et localement à Saint-Denis.
Absolument. J'anime une association qui vient de fêter ses 35 ans. Ses activités principales sont 1. Faire connaître les cultures du monde. 2. Travailler sur l'apport des migrants. 3. Rendre hommage à nos anciens combattants et même des résistants d'origine maghrébine à la libération de la France. Et en même temps, je fais les balades mémorielles sur Saint-Denis, Paris. Faire connaître à la fois l'histoire de l'Algérie dans ses quartiers et aussi le Maghreb à Paris.
Donc Rahim, on va revenir un peu plus longuement sur votre histoire. Déjà, vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans.
Absolument.
Dans un contexte très différent de celui de votre région natale, à Sétif. Quel souvenir vous gardez de cette arrivée en France?
Je me suis retrouvé à Saint-Étienne en 1948.
Et est-ce qu'on peut parler d'un choc culturel à votre arrivée ou pas forcément?
Si, un grand choc culturel. D'abord, on découvrait un peu ce monde, on ne parlait pas français. On a gardé un mauvais souvenir parce qu'on était beaucoup plus regardés de l'œil et en même temps, quelque part rejetés par les enfants de l'époque. Ça a évolué. Idem à l'école aussi. C'est vrai que là aussi, on était un peu... C'est-à-dire qu'on était des enfants, on n'était pas habillés comme eux. Et là, je tiens à remercier la maîtresse de l'époque, je ne rappelle plus son nom aujourd'hui, qui a veillé à ce que les enfants, à l'intérieur de la classe, nous respectent.
Et ça, c'était il y a 70 ans?
En 1948, hein. Dès qu'on est arrivé, il y a eu ce problème-là. Vous savez, à l'époque, l'école, les toilettes, elles étaient coupées en deux. Et dès qu'on allait aux toilettes, eh ben, ils nous jetaient des saloperies, quoi. Il y avait très peu d'intérêt dans cette école. Ça a changé une fois qu'on a appris la langue.
Et ça, c'était violent pour vous?
Ah oui, c'était très violent. Vous vous rendez compte, quand on arrive à l'école, ils crachaient, quelquefois. Bon, les premiers 3 mois, c'était très difficile. Et même, ce racisme, on l'a ressenti en dehors de l'école. C'est un souvenir que je garde. Il faisait beau dehors, devant notre maison, tous les enfants étaient dehors. Et eux, ils s'amusaient à me donner du coup de pied et puis partir. Alors, les parents ils étaient là, et puis moi, je suis tombé sur une pierre.
Rahim, vous êtes devenu le seul membre alphabétisé de votre famille, et vous serviez souvent d'interprète.
Oui, on peut le dire.
À quel moment vous avez compris que cette maîtrise des langues, donc du français, de l'arabe, ça pouvait devenir une forme de responsabilité?
Je ne l'ai pas vécu comme ça. Comme j'étais à l'école, j'ai baragouiné un peu le français, quoi. Du coup, quand les gens ont besoin de moi, ben, je leur lis les lettres, j'écris ce que je peux écrire, etc. Et en même temps, effectivement, je fais l'interprète, parce qu'à l'époque, la plupart ne parlaient pas français. Hein. Alors, ça m'a fait plaisir, parce que chaque fois que quelqu'un voulait aller à la sécu, à la CAF, je dis « moi, j'y vais à Ubu », parce que j'avais un retour, des remerciements de bonbons, etc.
On va revenir maintenant sur une période qui a profondément marqué votre parcours, c'est votre engagement au sein du FLN, donc le Front de Libération Nationale. Quel événement a marqué votre prise de conscience politique et votre engagement au sein de cette organisation?
Moi, j'étais dans le quartier de Saint-Étienne, mais il y avait quelque part des endroits dirigés par le FLN qui étaient minoritaires. Et souvent, il y a des règlements de compte, mais je ne savais pas qui à l'époque, j'étais jeune. Hein. Ma prise de conscience, en fait, s'est faite parce qu'on a eu beaucoup d'arrestations où on habitait. Petit à petit, par rapport à la prise de conscience, c'est la bataille d'Alger. Parce que la bataille d'Alger, le FLN commençait à être puissant en France. Et il y avait lors de la grève des commerçants qui fermaient leurs boutiques, etc. Comme nous, dans notre quartier, la majorité était FLN, ils nous ont obligés à fermer. Et là, il y a effectivement une rafle terrible. Je vais amener des gens au commissariat, tout ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi toutes ces arrestations? nous, dans notre bâtiment, donc, il y a toujours des rafles, etc. Aux alentours, il n'y a rien. Et dans notre école, il n'y a personne qui se plaint de ça et ça. C'est là où, quelque part, je me suis senti, pas responsable, mais je me suis senti visé. En disant, merde, écoute, il faut faire quelque chose.
Ces rafles en question, elles visaient des personnes, justement, qui vous ressemblaient.
Elles visaient les Algériens. Enfin, des basanés. D'ailleurs, les Portugais, les frères, certains ont fait des frais. Ils ont décapitulé la FLN en 58, la totalité du FLN. Et moi, j'étais contacté en février 59 pour reconstituer les cellules du FLN. Et effectivement, j'ai été arrêté en mai 58.
Dans les camps de Larzac.
Et effectivement, quand ils m'ont arrêté, d'abord...
Et vous aviez quel âge à cette époque?
J'avais 17 ans.
Arrêté à 17 ans.
Ils m'ont embarqué au commissariat de Terre-Noire. La première journée, j'en ai souffert. Parce que donnait des gifles, ils m'insultaient. J'ai tellement résisté qu'ils m'ont mis l'électricité que j'ai encore sur le pied. Ils mettent deux branches électriques.
Donc des actes de torture.
Ah oui, absolument. Et la trace, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas partie. Le lendemain, j'avoue, comme ils ont vu qu'ils n'avaient rien à tirer, ils m'ont laissé tranquille. Mais ils m'ont quand même gardé un mois dans le commissariat. Et je ne recevais personne. Dans la cellule du commissariat, pratiquement noire. Et je me posais toujours la question, quand je vais sortir, qu'est-ce qui se passe? En plus, je ne savais pas qu'est-ce qui va devenir de moi. Et en fait, il s'avère que un mois après, il convoque quelques Algériens qui étaient déjà dans le commissariat, des Algériens qui sont sortis de prison, et nous embarquaient tous au camp de Larzac, en bus, bien sûr, accompagné de CRS. Et quand on débarque au camp de Larzac, tout d'un coup, moi je descends, j'entends « Allah, yarham français, jabouloulen !» Que Dieu bénisse la France et ramène les gosses. Effectivement, j'étais le plus petit de taille et le plus jeune. Que Dieu bénisse la France et ramène des enfants.
Bon. Et justement, cette expérience, donc ces arrestations, les actes de torture que vous avez subis de la part de policiers français, comment est-ce que cette expérience, elle a transformé votre vision de l'Algérie, de la France et de votre engagement au sein de cette organisation?
Quand je suis arrivé au camp, il y avait plus de 5000 Algériens qui étaient là, qui étaient détenus de toute la France. Et dans le camp, c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir, même s'il y avait une répression terrible. C'est là où, par exemple, j'ai appris à écrire l'arabe. Je parlais un peu, mais je n'écrivais pas. Et moi, en contrepartie, je donnais des cours de français et de maths. Il y avait aussi d'autres qui donnaient des cours de sport. Il y avait une sorte d'entraide.
Une solidarité.
Ah, magnifique. Il y a même une solidarité. La caisse commune financière, quand les gens reçoivent de l'argent, quand ceux qui n'ont pas reçu, ils reçoivent la même somme que les autres. Parce qu'ils reçoivent l'argent dans une seule caisse, ils la répartissent.
C'est étonnant quand même de garder des bons souvenirs alors que vous étiez arrêté, vous étiez dans des conditions difficiles, vous nous parliez de torture, mais vous arrivez quand même à percevoir le bon là-dedans.
Il ne faut pas oublier ça. Même les colis, quand ils arrivent, on les met à l'entrée du bâtiment et les gens se servent. Ou alors on les distribue pendant le repas. C'est un bon souvenir.
Raïm, est-ce que vous aviez peur de mourir à ce moment?
Sincèrement, je n'avais pas du tout cette peur de mourir. Non, pas du tout. Je n'y pensais même pas. Et en plus, il y avait cette ambiance de solidarité. Et aussi, on nous apprenait l'histoire de l'Algérie, pas de côté français, mais algérien. Donc ça nous donnait une motivation supplémentaire d'avoir cette prise de conscience que je luttais pour quelque chose.
Une histoire qu'on ne vous avait pas apprise jusqu'ici.
Ce n'était pas toute l'histoire, mais une histoire racontée par les Algériens.
Vous avez assisté à la répression du 17 octobre 1961 à Paris, une répression meurtrière par la police française d'une manifestation pacifique d'Algériens dans la capitale, dans un contexte de guerre d'indépendance. Plus de 60 ans après, quel regard vous portez sur la transmission de cette mémoire aux jeunes générations notamment?
Alors d'abord, quand j'ai été libéré à Saint-Étienne, j'ai mon attestation qui me disait interdit d'aller dans toute la France, sauf l'Île-de-France. Et pendant le 17 octobre, on se rappelle, moi j'avais été avec un ami, Saad, qui était avec moi dans le camp de Larzac. Tout d'un coup, les Algériens qui venaient de Paris me disent « Allez, allez, refoule les chemins !» Ils ont commencé à arrêter. Mais dans la semaine qui suit, un vendredi, ça je me rappelle très bien, j'étais à la fenêtre, j'entends « pam, pam, pam !» Je regarde, en fait, ils ont tiré sur quelqu'un dans la cour. En plus, ils faisaient ses abus. C'est une rafle qu'on se souviendra. Les CRS français nous insultaient, petites gifles, coups de pied, et les insultes. Du coup, pour revenir au souvenir, déjà, après le 17 octobre, on a fait le recensement, nous. Il manquait 8 personnes. Là, on habite. On a fait les visites dans les hôpitaux, dans les lieux où ils y vont habituellement. Pas de traces. Donc ceux-là, ils ont été tués.
Cette mémoire, comment on la transmet aux jeunes générations?
Justement, depuis l'indépendance, moi j'ai toujours essayé de faire connaître cet événement tragique qu'ont vécu les Algériens. En 1991, on a créé une association qui s'appelle l'Agence de promotion des cultures et du voyage. Et dans un premier temps, on a beaucoup plus travaillé sur les rencontres culturelles. On a créé en fait plusieurs axes de travail. Le premier, c'était la rencontre des cultures. On a fait beaucoup d'activités interculturelles jusqu'à aujourd'hui. Après, on a fait tout ce qui tourne autour du passé. Rendre hommage à nos anciens combattants, aux résistants d'origine maghrébine. Et en même temps, on fait des balades mémorielles sur la ville de Saint-Denis, sur Barbès, Côte d'Or et le Maghreb à Paris. Pourquoi ? Parce que la Barbès, Côte d'Or, comme la ville de Saint-Denis, ont une grande histoire avec l'Algérie, aussi bien pendant l'immigration, aussi bien pendant la guerre de libération. Deux, on a fait connaître beaucoup plus l'apport des migrants, en particulier algériens. On a complété cette transmission à travers les collèges et lycées. Ça, c'est très important. Le ministère des combattants français a décidé de faire venir des témoins. Il y a un aharké, on intervient ensemble, un pied noir. Chacun raconte son vécu. Les lycéens ou collégiens ont appris cette guerre d'Algérie. Et puis, toujours dans la transmission, moi, j'interviens dans les universités. D'ailleurs, on dit qu'un peuple, un peuple sans mémoire n'a pas d'avenir.
Après l'indépendance, vous avez quitté le FLN, donc à la suite du coup d'État de Boumédienne. Est-ce que cette désillusion politique, elle a changé votre manière de militer ?
Quand il y a eu le coup d'État, avec quelques amis, malheureusement la plupart sont morts, on a été contre ce coup d'État, parce qu'il nous semblait que ce coup d'État n'était pas démocratique. On ne comprenait pas, personnellement, qu'un colonel puisse se permettre de faire un coup d'État comme ça. Bien que j'ai été désigné en 1963 délégué de la jeunesse algérienne à Alger. Le coup d'État nous semblait, nous, qu'il a remis en cause tous les acquis révolutionnaires en même temps par rapport à l'Afrique. Et du coup, depuis surtout les premières années, je fais partie de l'opposition. J'agis maintenant à titre personnel.
Et aujourd'hui, à travers l'APCV, donc l'Agence de la promotion des cultures et du voyage que vous avez fondée, et vos actions en faveur du dialogue entre Français et Algériens, est-ce que vous avez le sentiment de poursuivre le même combat qu'à vos débuts, ou est-ce que c'est une autre forme d'engagement ?
C'est sûr que c'est une autre forme d'engagement. Déjà, quand on entend le mot agence, les gens pensent agence de voyage. Or, dans notre esprit, agencer, c'est mettre ensemble les cultures. Quand je vois autour de moi cette histoire de la guerre d'Algérie, moi j'appelle guerre de libération, elle est quelque part oubliée, même de la part des Algériens. Je sais que par rapport au 17 octobre, qu'on organise tous les ans, en hommage à ces victimes, plus à Fatima Bédard, cette jeune lycéenne qui est retrouvée morte dans le canal de Saint-Denis. Eh bien, la plupart des gens qui participent à ces rencontres, la plupart, c'est des Français. Et tant mieux, parce que nous, on veut sensibiliser, y compris les Algériens. Maintenant, de plus en plus, il y a des prises de conscience de la part des jeunes.
Et justement, si vous avez un message à adresser aux jeunes Algériens, ce serait lequel ?
Les jeunes, l'avenir est à vous. Surtout, ne laissez pas passer tous les mots de racisme. N'acceptez pas. Comme cette société, ce sera la vôtre, eh bien, il faut combattre les injustices. Et je sors toujours un message de Stéphane Hessel. Stéphane Hessel est un militant, à l'époque, il avait 26 ans, il est d'origine allemande, il a rédigé un article dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et Stéphane Hessel est connu pour sa lutte, déjà pour l'égalité des peuples, palestiniens et autres. Il a été aussi quand même celui qui a parrainé les sans-papiers. Il a fait un premier revue, il a lancé un premier message à tout le monde. Indignez-vous. 2 ans après, il a lancé un deuxième message. Indignez, c'est bien, mais engagez-vous. Et c'est le message que je donne aux jeunes. Engagez-vous contre les injustices. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix.
Et sur cette histoire coloniale ?
Justement, sur cette histoire coloniale. Moi, je fais partie des survivants. Il ne faut pas oublier que cette histoire de la guerre d'Algérie, elle la concerne tous les jeunes. Surtout vous, les jeunes. Posez la question à vos enseignants. D'autant plus qu'aujourd'hui, on permet d'intervenir dans l'école, lycée et collège.
Vous trouvez qu'il y a toujours un tabou aujourd'hui autour de cette histoire ?
Absolument.
Qu'on a du mal à la transmettre encore aujourd'hui ?
Oula !
Juste, Raïm, je vais revenir sur un terme que vous avez employé tout à l'heure, c'est le terme de survivant.
Je n'ai pas eu les armes à la main, comme d'autres. Je rends hommage à tous ces chouhada qui, grâce à eux, aujourd'hui, on peut être digne et en même temps prendre la parole et soutenir ceux qui luttent pour les libertés, y compris pour les peuples.
Et ça vous fait quoi aujourd'hui de constater en 2026 que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas encore totalement rétablies ?
Ça fait plus de 40 ans qu'on revendique la reconnaissance du 17 octobre comme crime d'État. Tous les ans, il y a une manifestation au boulevard Saint-Michel. Il n'est toujours pas reconnu aujourd'hui.
Et vous, sur le plan personnel, vraiment, ça vous fait quoi de voir qu'aujourd'hui, la France et l'Algérie ont encore beaucoup de mal à dialoguer ?
On a toujours dit, même revendiqué, qu'il y ait quelque part, d'abord un traité d'amitié, il y a un office beaucoup plus de jeunesse franco-algérienne. Et on y travaille.
Vous avez encore de l'espoir, en tout cas?
Absolument, je l'espère, avant qu'ils disparaissent. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui, il y a cette envie de vivre en paix. Pour cela, il faut que la France reconnaisse ses crimes coloniaux, pas uniquement en Algérie. Hein. Tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance, il n'y aura pas de réconciliation.
Rahim, ce sera ma dernière question, une question que je pose à tous mes invités pour Venu d'Orient. Votre double culture franco-algérienne, est-ce que selon vous, c'est une richesse? Est-ce que c'est un obstacle?
La double ou la triple culture, c'est vraiment un enrichissement pour soi-même et un enrichissement global pour tous les gens. Et cette double culture, elle s'exprime d'une part à travers la langue, à travers la culture, tout simplement à travers les films, à travers le théâtre. D'ailleurs, on le voit très bien, tout le monde le dit, aujourd'hui, les personnes de double culture, même y compris les enfants, avancent mieux dans la connaissance du savoir. Plus on apprend des langues, plus justement, on a moins de préjugés par rapport à l'autre. J'apprécie davantage mon voisin, ma voisine, depuis que je m'intéresse à sa culture. Voilà notre forme de contribution au vivre ensemble.
Et donc, on l'a bien compris, pour vous, c'est une richesse.
Plus qu'une richesse, un trésor.
Merci beaucoup, Rahim Rezigat, d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci.
Vous venez d'écouter un épisode de Venu d'Orient avec Rahim Rezigat, militant associatif. C'était Nawal El Amouchi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.